Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, donc, le scandale Goldman Sachs. À la mi-septembre 2008, une crise financière d'ampleur inédite frappe le monde. En l'espace d'à peine quelques jours, l'économie mondiale s'enraye, la panique s'empare des salles de marché, certaines banques s'écroulent, des fonds de placement font faillite et plusieurs pays comme l'Islande se retrouvent au bord du gouffre. Dans cet océan de marasme et de crainte, d'incertitude et de doute, un établissement financier tire pourtant son épingle du jeu. Cette banque, sans enseigne et sans visage, c'est Goldman Sachs. Très vite, sa réussite aussi insolente que surprenante va soulever des questions. Quelques mois plus tard, la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis, découvre le poteau rose. Goldman Sachs s'est enrichi avant la crise en spéculant sur la chute des marchés boursiers. Elle aurait également usé de son réseau d'influence au sein du gouvernement américain pour sortir renforcée de l'effondrement des marchés en 2008. Notre invité aujourd'hui, le grand reporter et réalisateur Jérôme Fritel. Il est l'auteur, avec son confrère du Monde, Marc Roche, d'un documentaire sur cette affaire intitulé « Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Tour. Am I pronouncing your name
Monsieur
correctly?
Tour, c'est comme ça qu'on prononce votre nom?
Oui, Monsieur le Président.
Mr. Chairman, members of the
Monsieur le Président, membres de la Commission, bonjour. Je m'appelle Fabrice Tour et je travaille à Goldman Sachs International à Londres. Monsieur le Président, comme vous le savez, la Commission de sécurité des échanges vient d'engager des poursuites aux civils et elle m'accuse d'avoir caché à mes investisseurs certaines informations à propos d'une transaction que j'ai aidé à concevoir, Abacus 07AC1. Je démens catégoriquement les accusations de la SEC et je me défendrai en justice contre ces allégations.
Washington, 27 avril 2010. Ce matin, Fabrice Tour, opérateur de marché de la banque d'affaires Goldman Sachs, comparaît devant la sous-commission d'enquête du Sénat américain. Le ton est poli, le regard confiant. Les mains croisées sur la table, le jeune trader clame son innocence. « Non, je n'ai pas abusé la confiance de mes clients. Non, assène-t-il dans un américain haché au léger accent français, je ne suis pas responsable de leur perte. » Pendant une dizaine de minutes, devant une assistance médusée face aux caméras de télé, Fabrice Tour livre un plaidoyer dont l'aplomb et le style traduisent une certaine arrogance. À chacune de ses phrases, il use et abuse d'un jargon technique pour décrire ses manipulations, ses décisions, ses choix. Une stratégie qui, de l'avis de l'envoyé spécial du New York Times présent dans la salle, ressemble à une ruse de jeune loup des salles de marché. Assis à quelques mètres de Fabrice Tour, trois autres collaborateurs de la banque Goldman Sachs attendent en silence. Il y a là Jonathan Nagel, son supérieur, Daniel Sparks, le chef de la division des prêts hypothécaires, et enfin Joshua Birenbaum, l'un des directeurs du management. Tous portent des costumes sombres, des chemises blanches et des cravates neutres. Le cheveu court et la barbe rasée de près, ils se tiennent droits comme des i. Lorsqu'on leur donne la parole, l'un après l'autre, Nagel, Sparks et Birenbaum abattent d'emblée leur joker. Ils font front commun face aux accusations de conflit d'intérêts et de délits d'initiés qui frappent leur banque. Ils jouent la carte de l'incompréhension. En fait, ils éludent les questions. Non, ils ne savaient pas. Non, ce n'était pas exactement comme ça. Non, non, non. Beaucoup trop de non au goût des membres de la commission d'enquête. L'un des sénateurs leur coupe alors la parole et ironise. On ne vous a donc jamais appris à dire oui chez Goldman Sachs? Un silence glacial envahit la salle d'audience. Pour seule réaction, les quatre hommes offrent aux sénateurs un regard sévère. Eux, les Goldman Boys de Wall Street, qu'on admirait jusqu'ici pour leurs résultats, font aujourd'hui la grimace, comme des enfants qu'on aurait punis pour avoir triché en classe.
Live now to a Senate hearing with former and current executives at the investment bank Goldman Sachs. Carl Levin of Michigan is the chairman. You've got live coverage here on C-SPAN 3.
En face, dans le rôle du juge, le président de la commission d'enquête, le sénateur démocrate Carl Levin, reste ferme. Il ne lâche pas les quatre banquiers du regard. L'air grave, il pointe son doigt à plusieurs reprises vers l'épais dossier de la SEC, la Security and Exchange Commission, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Dans ce dossier, plusieurs milliers de documents internes à Goldman Sachs. Des éléments qui, toujours d'après le New York Times, accablent la banque d'affaires et désignent Fabrice Tour et ses comparses comme les architectes d'une vaste tromperie. Oui, une escroquerie qui leur a permis de gagner de l'argent au détriment de plusieurs milliers de leurs clients pendant la crise de 2008 et dont le préjudice total dépasse les 11 milliards de dollars. Dans les milieux d'affaires, de nombreux analystes savaient que Goldman Sachs flirtait depuis longtemps avec la ligne jaune. Mais personne, non, personne n'imaginait que la banque serait prête à la franchir. Personne ne pouvait croire que cette vénérable institution financière, l'un des piliers du New York Stock Exchange, irait jusqu'à briser toutes les limites éthiques dans sa course effrénée au profit. Et pourtant, les faits sont là, elle a bien franchi le Rubicon. Le sénateur Levin s'appuie d'ailleurs sur l'un d'eux pour montrer la perversité du système mis en place par Goldman et ses banquiers. Car Levin cite l'exemple des titres d'investissement Timberwolves, un produit financier qu'on appelle dans le jargon un dérivé synthétique. Comprenez, une structure d'actifs de nature diverse, prêts, crédits, parts d'entreprise, rassemblés en portefeuille de créances bancaires. Un machin auquel le non-initié ne comprend rien et qui était vendu sur les marchés financiers par Goldman Sachs avant que n'éclate la crise. Un produit sur lequel le sénateur Levin demande à Daniel Sparks, le chef de la division des prêts hypothécaires, quelques explications.
600 millions de dollars de titres Timberwolves. Voilà ce que vous avez vendu. Mais avant de les vendre, voici ce qui se disait au sein de votre équipe commerciale. Je cite. Oh les gars, ces titres Timberwolves, c'est vraiment de la merde. Ils ont donc vendu de la merde.
Monsieur le Président, ce courriel vient du chef de département, pas de l'équipe de vente.
Quoi qu'il en soit, c'est un document interne à Goldman Sachs.
C'était un email que j'ai reçu fin juin.
Et vous avez continué à vendre Timberwolves?
Non, c'est après la transaction.
Non, vous avez vendu Timberwolves après ça. Je vais vous dire, le contexte est ici plutôt clair. 22 juin, vous recevez cet email. Combien de cette merde avez-vous vendu à vos clients après le 22 juin 2007 ?
Daniel Sparks, d'ordinaire si charismatique, ressemble à un gamin pris les doigts dans le pot de confiture. Il tourne avec frénésie les pages du classeur devant lui. Il tente de chercher une réponse sur l'une des dizaines de lignes de chiffres qui défilent sous ses yeux. Mais s'il n'en trouve aucune. En face de lui, le sénateur Levin en profite pour acculer le Goldman Boy. Pendant plusieurs mois, monsieur Sparks, vous avez tout fait pour vendre à vos clients ces titres d'investissement Timberwolves. C'était même votre priorité numéro un, à en croire d'autres échanges de mails que vous avez eus avec vos collègues. Donc, si je comprends bien, votre banque vendait sciemment de la merde et vous n'avez rien à répondre à cela? Le banquier tente alors de se dédouaner. Il affirme que, ramené dans le contexte de l'époque, personne ne pouvait prévoir l'évolution du titre Timberwolves et donc sa possible chute sur les marchés. À ces mots, le sénateur Levin devient rouge de colère et il l'interrompt. Enfin, monsieur Sparks, vous savez ce qui me révolte dans cette affaire? C'est qu'en plus de vendre de la merde à vos clients, j'ai découvert que vous aviez parié contre eux. Oui, monsieur Sparks, vous avez osé vendre des titres Timberwolves à vos clients en vous assurant de gagner de l'argent si ces derniers en perdaient. J'en ai la preuve. Il suffit de lire le dossier d'enquête de la SEC. D'ailleurs, vous n'étiez pas le seul à le faire. Votre collègue chez Goldman, M. Tour, faisait la même chose avec Abacus. Les journalistes assistent sidérés à cette altercation. Fabrice Tour, lui, ne réagit pas. La caméra enregistre toute la séquence. Une fois de plus, le nom Abacus s'invite au cœur du débat. Et au fil des questions, sans réponse, des éléments de preuve sans justification, il apparaît clair que dans toute cette affaire, la banque américaine Goldman Sachs est allée trop loin. Oui, elle a dépassé les bornes. C'est bien l'avis de l'une des membres de la commission d'enquête, la sénatrice Claire McCaskill. Durant l'audience, elle s'adresse aux accusés d'un ton sévère.
Nous avons passé beaucoup de temps à examiner ces documents. Et je peux vous dire de façon simple ce que sont ces produits dérivés. Ce sont des instruments qu'on a créés pour que les gens puissent parier dessus. C'est ça le monde enchanté des placements. Ce n'est pas un investissement dans une bonne affaire. C'est juste du pari. Du pari pur et dur.
raw gambling.
Au fil des heures, ce 27 avril 2010, en direct à la télé, le grand public découvre le cynisme et l'absence d'éthique des banquiers de Goldman Sachs. La scène donne l'impression d'un grand déballage public. Les uns après les autres, les cadavres sortent du placard. Et ils jettent le discrédit sur l'image jusque-là prestigieuse de la banque d'affaires américaine. De leur côté, l'ensemble des personnes qui assistent à l'audience s'interrogent. Comment est-ce possible? Comment Goldman Sachs a-t-elle pu s'enrichir en pariant contre ses propres clients? À quoi correspond le produit dérivé Abacus? Quel est le rôle exact joué par le français Fabrice Tour? Enfin, quel est le mécanisme qui lui a permis d'échapper à la crise de 2008? Eh bien, pour le comprendre, il est nécessaire de remonter le temps et de se replonger au début des années 2000, à une période où New York était alors la capitale mondiale de la finance et où ses traders, véritables équilibristes de l'économie dématérialisée, étaient considérés comme des dieux vivants dans les salles de marché. Printemps 2004, Manhattan, 85 Broad Street, bureau new-yorkais de la banque d'affaires Goldman Sachs. Ici, 24 heures sur 24, derrière les fenêtres de verre de ce gratte-ciel, une armée de banquiers en costume sombre s'agite. Les uns ont l'oreille sur leur téléphone, les autres ont les yeux rivés sur leurs écrans d'ordinateur. À chaque étage de la tour, les bureaux se ressemblent, mais les enjeux sont différents. Au quatrième, on traite et on parie sur le cours des matières premières, le gaz, le pétrole. Au neuvième, on joue sur les flux de devises et on tente de prévoir l'évolution des taux de change. Et puis encore plus haut, on s'intéresse aux assurances ou aux prêts hypothécaires. 365 jours par an, les Goldman Boys conseillent, managent, spéculent pour le compte de leurs clients, pour la plupart de grandes entreprises multinationales triées sur le volet, comme le constructeur américain Ford ou encore le fleuron britannique des hydrocarbures, BP. On trouve aussi des fonds d'investissement géants chargés de placer l'épargne ou la retraite de millions d'anonymes à travers le monde. À l'origine, Goldman Sachs était la banque de courtage des artisans juifs émigrés aux États-Unis. 140 ans plus tard, celle que tout Wall Street surnomme la firme est devenue un empire invisible riche de 700 milliards d'euros d'actifs disséminés partout sur la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, cette somme représente alors le budget annuel de la France à l'époque. Et à cette période, où qu'ils aillent pour négocier leurs affaires, les banquiers de Goldman transpirent la confiance et surtout, ils inspirent le respect. Comme en témoigne cet ancien trader face à la caméra de Jérôme Frittel dans le documentaire Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde.
J'ai travaillé pendant 17 ans à Wall Street, à la banque Lazard, à Merrill Lynch et à JP Morgan. Et peu importe où je travaillais, nous voulions toujours ressembler à Goldman Sachs. C'était littéralement la référence absolue de la profession. Ils donnaient l'impression d'être les meilleurs. Leurs salariés étaient les mieux payés. Ces gens sont là pour gagner parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Leur devise, c'était « ce n'est pas suffisant de réussir, il faut enfoncer les autres ».
Quelques semaines plus tard, toujours au printemps 2004, un jeune homme de petite taille, au visage avenant, pénètre pour la première fois au 85 Broad Street. Il se présente à l'accueil. « Bonjour, je m'appelle Fabrice Tour. J'ai rendez-vous pour un entretien. » Très bien, on l'invite à patienter sur l'un des canapés de cuir noir, dans l'entrée. Assis là, seul face à son destin, le jeune trader feuillette les brochures de la banque. Sur chacune d'entre elles figure son leitmotiv. Il est écrit « Ici, chez Goldman Sachs, les intérêts de nos clients passent toujours en premier. » Et il se prend déjà à rêver d'avoir un jour son nom accroché sur le desk des associés partenaires de l'établissement. Originaire d'une famille aisée de la banlieue ouest parisienne, Fabrice Tour est diplômé de la prestigieuse École centrale de Paris et de l'Université Stanford aux États-Unis. À tout juste 24 ans, ce génie des maths, appliqué à l'économie, entend poursuivre son rêve d'ascension et de gloire. Et pour ça, Goldman fait figure de tremplin. Face aux différents recruteurs de la firme, d'emblée, le français fait forte impression. Le jeune loup de la finance, disert et charmant, intelligent et ambitieux, a le profil pour intégrer l'entreprise. En effet, chez Goldman, le travail en équipe et le dialogue interne sont la règle. L'égocentrisme est banni. Diva flamboyante et golden boy cocaïnomane s'abstenir. ici, au 85 Broad Street, on n'engage que ceux qui peuvent se fondre dans le moule. Deux semaines plus tard, Fabrice Tour revient chez Goldman, cette fois en tant que collaborateur. Le nouveau venu est affecté à la division des crédits hypothécaires. Sous la supervision d'un certain Daniel Sparks et en binôme avec Jonathan Eagle, le travail du Français consiste à vendre des produits dérivés complexes au nom barbare. Doué d'un formidable talent pour les prévisions, Fabrice Tour réalise de très bons résultats et se fait rapidement une place dans l'équipe. Il porte désormais l'habit du Goldman Boy, un banquier efficace et sûr de lui pour le plus grand plaisir de ses patrons.
Introducing Goldman Sachs Wealth Management. Service.substance at goldman.com.
Au même moment, dans les couloirs de Wall Street, c'est l'euphorie. Les traders jouent, gagnent et amassent des sommes considérables. Grâce à la croissance économique, à la course au gigantisme et à la politique d'argent bon marché de la Banque centrale américaine, le secteur financier aux États-Unis est devenu, en l'espace de 20 ans, une extraordinaire machine à fabriquer des profits. Qu'elles s'appellent Lehman Brothers, JP Morgan, Citigroup, UBS ou encore Merrill Lynch, les banques se gavent de prêts hypothécaires à risque et elles les revendent ensuite sous la forme de produits dérivés plus complexes encore. L'opération comporte bien une part de risque. Mais le risque, à Wall Street, en ce milieu des années 2000, personne ne veut en entendre parler. Et c'est oublier que la course aux gains, ses limites. La planification virtuelle d'un système reste avant tout virtuelle. Or, quelques années plus tard, début 2007, le réel se rappelle au bon souvenir des financiers. Et le réel, c'est que la mécanique économique s'enraye. Le marché des subprimes, les prêts hypothécaires, montre des signes de fatigue inquiétants. Aux États-Unis, le numéro 2 du crédit à l'habitat se déclare en faillite. Et comme en témoigne celui qui est alors le patron du FMI, un certain Dominique Strauss-Kahn, l'avenir s'annonce très sombre sur la planète finance.
Oui, à l'origine, la crise est la crise des subprimes aux États-Unis. Mais aujourd'hui, elle dépasse largement cette crise des subprimes. Elle a entraîné un ralentissement aux États-Unis. Les prévisions que le Fonds monétaire va rendre publiques dans quelques semaines sont encore un peu plus faibles. Nous avons clairement devant nous une situation dans laquelle les risques sur la croissance économique sont de plus en plus sérieux.
HSBC, Burns Stearns, Citigroup, BNP Paribas, en l'espace de quelques mois, des dizaines de grandes banques du monde entier affichent des résultats catastrophiques. Des fonds d'investissement entiers contenant des produits dérivés issus des subprimes sont gelés. Les banques centrales sont obligées d'intervenir et de recapitaliser en urgence. Au 85 Broad Street, chez Goldman Sachs, chose étonnante, personne ne s'inquiète de ce ralentissement économique. Au contraire, la banque d'affaires se targue d'une réussite insolente. Pour 2007, elle affiche en effet un bénéfice net de plus de 13 milliards de dollars. Son PDG, lui, perçoit une prime de 50 millions de dollars. Fabrice Tour touche également un bonus conséquent. Suspect tout cela dans un tel contexte, pourquoi les banquiers de Goldman ont-ils réussi à anticiper la crise et quelle est leur recette ? On connaît aujourd'hui, avec le recul, la réponse à ces trois questions. Elle tient en un nom de code aux accents latins et à l'usage monstrueux, Abacus.
Alors, qui dit étude, dit travail. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 et ben y'en a encore.
Et ben, il y en a encore.
L'économie à présent, avec donc les suites de ce lundi noir sur les places financières. Cette nuit, la Banque du Japon a annoncé l'injection de quelque 10 milliards d'euros dans le marché monétaire japonais. Il s'agit bien évidemment de faire face aux conséquences de la faillite hier de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. Une faillite qui a entraîné toutes les bourses de la planète dans la chute. Moins 5% ce matin en ouverture à Tokyo, idem à Shanghai. À Paris hier soir, le CAC 40 a plongé de 3,7%. Moins 3,9% à Londres et moins 4,4% hier soir en clôture à Wall Street. Du jamais vu depuis le 11 septembre 2001.
Lundi 15 septembre 2008, en l'espace de quelques heures, partout à travers le monde, la panique s'empare des salles de marché. À Wall Street, le New York Stock Exchange, plus grande plateforme d'échange des valeurs financières de la planète, plonge. Les yeux rivés sur leurs écrans, les oreilles scotchées à leurs smartphones, les traders, tels des équilibristes, marchent sur un fil. Voilà un an, de toute façon, que le système bancaire mondial vit au ralenti. Depuis l'effondrement du marché des subprimes, le secteur des prêts hypothécaires risque aux États-Unis. Désormais, avec la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers et la mise sous tutelle du plus grand assureur mondial, le groupe américain AIG, le système économique de la planète a les genoux à terre. Et très vite, la contagion se propage au continent européen. Des banques britanniques se retrouvent en cessation de paiement. Des fonds d'investissement espagnols sont tout bonnement ruinés. En France, les victimes aussi sont très nombreuses. Parmi elles, le groupe BNP Paribas, la banque d'affaires Natixis ou encore la Société Générale. Sur France Inter, le député Michel Sapin fait part de son inquiétude.
Le plus grave n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a une forme de purge très brutale qui va laisser des traces considérables dans le domaine financier. Il y a des gens qui vont y perdre beaucoup d'argent, pas forcément ceux qui avaient gagné beaucoup d'argent avant. Mais le plus grave est encore devant nous, c'est-à-dire les conséquences de tout cela pour monsieur et madame tout le monde, pour celui qui travaille et qui risque d'être au chômage, pour tous les acteurs économiques, les entrepreneurs de toute nature qui voient se tarir le crédit, donc qui voient se tarir la capacité à investir, à prendre des décisions. Donc c'est le ralentissement économique considérable devant nous qui est certainement la conséquence la plus grave de la situation d'aujourd'hui.
Au même moment, en coulisses, dans les cuisines du 85 Broad Street à New York, au siège de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, on fait les comptes. Certes, la banque enregistre en cette année 2008 des pertes sur les marchés. Mais une chose est sûre, les Goldman Boys ont évité le pire. Et ce, en grande partie, grâce à Fabrice Tour et à Bacchus. Voilà plus d'un an que Goldman Sachs a senti venir le vent de la crise et qu'elle a décidé de se débarrasser au détriment de ses propres clients de tous ses actifs à base de dérivés de crédit issus des subprimes. C'est son département des prêts hypothécaires, dirigé par Daniel Sparks, qui lui offre la solution. Et aux manettes de cette opération, on retrouve Fabrice Tour, le trader français. Nom de code choisi, Abacus donc, qui signifie « bâton commandement » en latin. Dans les grandes lignes, Tour récupère les emprunts les plus risqués, les plus pourris présents dans les caisses de Goldman. Il les rassemble pour composer un nouveau produit de titrisation complexe, une sorte de véhicule financier prêt à être vendu sur les marchés qui sera baptisé justement Abacus. Par un miracle de la technofinance ou un coup du sort qui ne dit pas son nom, Goldman obtient d'une entreprise d'audit extérieur un triple A, autrement dit une note excellente pour son produit miracle. Ensuite, eh bien, sans aucun scrupule, Goldman vend Abacus tout au long de l'année 2007 à ses propres clients des banques, des groupes industriels, des fonds de placement. Persuadés qu'ils réalisent là une bonne affaire, ces derniers se précipitent et achètent en pariant sur la hausse du titre. Dans le même temps, Goldman, qui sait pertinemment qu'Abacus ne vaut rien et que le marché des subprimes va s'effondrer, va au contraire spéculer sur la baisse du titre en bourse contre l'intérêt, rappelons-le, de ses propres clients. Les semaines passent, assis à son bureau du 85 Broad Street, Fabrice Tour pianote sur son ordinateur. sur les différents écrans à sa disposition, le jeune trader lit et relit les diagrammes de prévision et jour après jour, le titre Abacus s'affiche en baisse. Ce n'est qu'une question de temps avant sa chute. Le jeune trader va-t-il alors prévenir ses clients du risque qu'ils encourent? Vous l'avez compris, la réponse est non. Et à sa petite amie qui lui demande par courriel des explications sur son travail, Fabrice Tour explique même avec détail ce qu'il est en train de faire.
En gros, je trade un produit qui valait 100 dollars il y a un mois et qui n'en vaut plus que 93 aujourd'hui. On est sur une perte moyenne de 25 cents par jour. Présenté comme ça, ça n'a pas l'air énorme. Mais quand tu penses qu'on achète et qu'on vend ce truc sur des montants de plusieurs milliards, ça commence à faire beaucoup de sous.
Toujours par mail, au début de l'année 2007, Fabrice Tour affirme que dans les prochains mois, l'édifice entier risque de s'effondrer et que le seul survivant, ce sera lui, Fab, le fabuleux. Ou encore que le business des subprimes est complètement mort et que les pauvres petits emprunteurs ne vont pas faire de vieux os. Et quand sa petite amie lui demande justement ce qu'il ressent, le trader lui répond ceci.
De toute façon, je ne me sens pas coupable de tout ça. Le véritable objectif de mon travail, c'est de rendre les marchés de capitaux plus efficaces. Moi, je fournis aux consommateurs américains des moyens plus efficaces pour avoir accès au crédit et se financer. Donc, quelque part, il existe une justification humble, noble et éthique à mon travail. C'est étonnant, comme je m'en convainc moi-même.
Résultat des comptes, la crise venue, les acquéreurs d'Abacus, pour l'essentiel des investisseurs institutionnels, perdront 99% de leur mise. Au total, on estime que les pertes avoisinent les 750 millions de dollars. Dans le même temps, et sans aucun scrupule non plus, les banquiers de Goldman Sachs encaissent des bénéfices sur les transactions en tant qu'intermédiaires. Puis, en tant que joueur, la banque encaisse le résultat de ses paris. Bref, elle décroche le jackpot, plus d'1,5 milliard de dollars. De leur côté, Fabrice Tour, Jonathan Nagel et Daniel Sparks encaissent un chèque de bonus dont le chiffre comporte plus de 6 zéros. Je vous laisse calculer. Cupidité, secret, goût du risque. Avec Abacus, Goldman Sachs a brisé tout au long de l'année 2007 la relation de confiance qu'il a liée depuis des décennies à ses clients. Et comme si cela ne suffisait pas, elle va jouer de son influence pour sortir, figurez-vous, renforcée, oui, renforcée de la crise de l'automne 2008.
Goldman Sachs. Our clients' interests always come first.
Septembre 2008, on l'a vu, la crise éclate et les marchés boursiers s'effondrent. La banque d'affaires américaine Lehman Brothers, principale concurrente de Goldman Sachs, est au bord du gouffre. Elle demande de l'aide au gouvernement américain pour éviter sa mise en faillite. Et là, surprise, à la Maison Blanche, George Bush et son secrétaire d'État au Trésor, Henry Paulson, disent non. Non, nous ne sauverons pas Lehman Brothers. La banque doit assumer les risques qu'elle a pris sur les marchés. Dans la foulée, Henry Paulson se précipite à New York, où il a rendez-vous avec le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. Au 85 Broad Street, l'accueil réservé au secrétaire au Trésor est plus que chaleureux. Et pour cause, Henry Paulson n'est autre que l'ancien directeur de Goldman Sachs. Le voilà de retour dans ses anciens bureaux. Et la réunion à laquelle il participe ce jour-là, en présence des principaux partenaires de la banque d'affaires, a tout du complot sans la théorie. Non, là nous sommes dans la pratique. Les discussions portent sur l'aide que peut apporter Paulson pour préserver les intérêts de Goldman. Lloyd Blankfein lui explique qu'en fait, Goldman s'est vacciné contre le risque des subprimes. Toutefois, Blankfein affirme que la banque fait face à un autre danger. En effet, si l'assureur américain AIG venait à couler dans la tempête, Goldman perdrait plus de 10 milliards de dollars. Autrement dit, le PDG de Goldman demande au secrétaire au Trésor des États-Unis de sauver AIG et d'obliger l'assureur à le rembourser. Eh bien, c'est chose faite quelques jours plus tard. L'État américain déverse plusieurs centaines de milliards de dollars pour son plan de sauvetage. L'administration Bush nationalise AIG. En contrepartie, l'assureur s'engage à rembourser Goldman avec l'argent du contribuable américain, un comble. Lors d'une allocution télévisée, George Bush justifie auprès du grand public cette opération de renflouement.
Le risque systémique était très important et nécessitait une réponse à cette hauteur. Le Congrès le comprend, nous travaillons pour que quelque chose soit fait aussi vite et aussi massivement que possible. À problème massif, réponse massive. Je continue à dire à nos concitoyens que le risque de ne rien faire est bien plus important que le risque que constitue cette somme. L'argent reviendra, mais là, maintenant, le gouvernement se devait d'envoyer un signal disant que nous comprenions que l'instabilité pouvait devenir dévastatrice et à terme affecter les travailleurs, les familles, nous ne laisserons pas ça.
Une nouvelle fois, Goldman tire son épingle du jeu. En 2008, en plein cœur de la crise, la banque d'affaires réalise plus $1,5 milliard de bénéfices. Et surtout, grâce à l'aide d'Henry Paulson, Goldman se débarrasse de son principal concurrent sur le marché, Lehman Brothers. En ce début d'année 2009, au 85 Broad Street, au siège de la firme, le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, devait se frotter les mains. Le tout-puissant patron de la banque d'affaires devait penser que les jeux étaient faits. Il devait croire que l'affaire était bouclée, entendue, terminée, que ces hommes, les Goldman Boys, venaient de gagner et d'écraser la concurrence.
I'm running for president because I want to tell them, yes, we can.
Mais c'était sans compter sur l'entrée d'un nouvel acteur dans la partie, un certain Barack Obama. Dès son élection à la présidence des États-Unis en novembre 2008, le candidat du Parti démocrate avait en effet annoncé la couleur. Les banques que l'État a renflouées devront s'expliquer sur leurs pertes. Et toute la lumière devra être faite sur les raisons d'une telle crise du système. À bon entendeur. Dans les semaines qui suivent, la SEC, le gendarme de la bourse aux États-Unis, lance une enquête d'envergure. Et c'est sur le cas Goldman que se concentrent ses agents. Très vite, les sombres mécanismes mis en place par la banque d'affaires apparaissent au grand jour. Fabrice Tour, Daniel Sparks, Jonathan Eagle et leurs produits Abacus deviennent les symboles des dérives de la banque. L'affaire se politise et surtout elle se médiatise lorsque Rolling Stone Magazine publie une enquête de plusieurs pages. Dans ses colonnes, le journaliste Mark Taibbi y livre des informations édifiantes sur les procédés et les façons de faire de la banque depuis des décennies. Interrogé sur France Inter, Olivier Berruyer, spécialiste des assurances et des marchés, partage cet avis, critique les dérives du secteur bancaire.
La finance n'a jamais été folle. La finance est malheureusement totalement rationnelle. Donc elle essaye de maximiser ses revenus, y compris en faisant preuve d'une absence totale d'éthique. Mais il n'y a aucune folie là-dedans, hein, dans ce système-là. Le problème, c'est que le système n'est géré qu'à court terme et que des décisions qui rapportent beaucoup d'argent à court terme peuvent entraîner la faillite à long terme.
Lors de leur grande audition face aux sénateurs le 27 avril 2010, les cadres de Goldman, Fabrice Tour, Daniel Sparks, Jonathan Eagle et John Birnbaum ne peuvent nier l'évidence, les preuves sont accablantes. À cela s'ajoutent les échanges de courriels entre le trader français et sa petite amie qui en disent long sur les intentions et le cynisme du trader français. Pour échapper au scandale et aux poursuites, Goldman Sachs accepte de payer une amende de $400 millions. Un chiffre record, mais qui ne représente que 2 semaines de ses bénéfices à l'année, autrement dit, pas grand-chose. À l'été 2013, Fabrice Tour est la seule personne à passer au tribunal. Une nouvelle fois, il plaide non coupable et il est condamné à une simple amende, $825 000. Une somme importante, mais là aussi bien dérisoire au vu des bonus qu'il a accumulés durant la crise. Barack Obama, qui avait voulu réformer et réguler le monde de la finance, n'a pas pu aller jusqu'au bout, entravé par les membres du Parti républicain et par les lobbyistes de Wall Street. Quant au PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, il est toujours en poste. Pensez donc, sa banque roule sur l'or, il ne risque rien au pays où la première des valeurs est la valeur boursière. Élu homme de l'année par le magazine Time en 2009, il est l'un des patrons de banques les mieux rémunérés du monde, Dr. Goldman et Mr. Sachs.
I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame, I ain't low. was just wondering. Round my hometown, making memories, I pray.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le scandale Goldman Sachs avec notre invité Jérôme Fritel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, vous êtes l'auteur avec le journaliste du Monde, Marc Roche, d'un documentaire sur cette affaire, intitulé Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde, et plus récemment d'une nouvelle enquête sur les coulisses de la banque HSBC, qui est toujours disponible d'ailleurs au visionnage hein, sur le site Arte Plus 7, et celui-là s'appelle Les gangsters de la finance. Et décidément, la finance est un endroit mal fréquenté, hein. Soit elle dirige le monde, ce qui est un énorme déni de démocratie, soit elle est remplie de gangsters.
Il n'y a pas que ça, mais il y a de très belles histoires noires dans la finance, effectivement.
Alors, votre enquête longue de plusieurs mois vous a mené, Marc Roche et vous, au cœur des secrets de la technofinance et des couloirs de Wall Street. Comment vous avez pu approcher les intervenants qui témoignent à visage découvert? Parce que j'imagine que c'est quand même tout ça sous le sceau du secret, tout ça ne se dit pas. Et finalement, vous arrivez à faire dire.
Le principe, effectivement, quand on travaille à Wall Street ou dans les établissements financiers, c'est on ne parle jamais de ces activités. Donc toute la difficulté était de réussir à rencontrer des gens qui avaient, à un moment donné dans leur carrière, été au cœur des activités et qui en étaient sortis et qui avaient retrouvé leur liberté de parole. Parce qu'en général, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui se précipitent pour vous parler n'y connaissent rien. Donc là, effectivement, on a pu avoir accès à quelques anciens de Goldman Sachs, ou qui avaient croisé la route de Goldman Sachs, et qui ont accepté de nous raconter un peu les méthodes de Goldman Sachs dont vous venez de parler, et notamment ces conflits d'intérêts absolument incroyables, et ce réseau d'influence hors pair que la banque s'est constitué, aussi bien au sein des gouvernements, que ce soit le gouvernement américain ou les gouvernements européens, au sein des institutions internationales. Et c'est ce qui fait que cette banque, elle a quelque chose de plus que les autres. D'ailleurs, on parle du gouvernement Sachs, Goldman Sachs. Et c'est ce réseau d'influence hors pair qui lui a permis d'être sauvé par le gouvernement américain au moment de la crise de 2008. Vous l'avez très bien raconté. Et qui lui a permis de continuer à placer ses hommes au sein des institutions européennes, notamment avec la nomination de Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne.
Et donc tout ce que vous venez de dire explique la deuxième partie du titre, la banque qui dirige le monde. C'est ça. Si c'est un lobbyiste très efficace au niveau européen et au niveau américain, elle dirige le monde.
C'est dans son ADN. Quand vous entrez chez Goldman Sachs, vous entrez dans le sein des saints et on vous le fait comprendre. La sélection est très dure. On les appelle les moines banquiers. Vous travaillez 15 heures par jour. Vous ne pensez qu'à ça. Vous ne dormez quasiment plus. En échange, vous gagnez beaucoup d'argent.
Ouais, bah heureusement.
Vous restez 15 ans dans la banque, et après, vous continuez à servir la banque d'une autre manière, en regagnant, en gagnant les rangs des institutions internationales, ou en devenant ministre, ou en devenant conseiller du ministre. Et donc, les banquiers de Goldman Sachs fonctionnent comme ça. D'abord, on gagne de l'argent pendant 15 ans, et après, on va utiliser son influence. Et quelque part, on n'a jamais quitté la banque. L'une des personnes interviewées dans le documentaire nous dit, c'est comme s'il existait une espèce d'université informelle Goldman Sachs. Le réseau des anciens est un réseau d'une puissance absolument incroyable.
C'est vraiment la firme.
C'est la firme, tout à fait, c'est vraiment ça. C'est la firme avec une mentalité de joueur, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les marchés financiers, c'est comme un casino où on est sûr de gagner à la fin. Et il y avait un témoignage absolument incroyable d'une personne qui a été banquière chez Goldman Sachs, qui aujourd'hui a quitté les métiers de la banque, qui nous racontait comment s'était passé le 11 septembre chez Goldman Sachs.
Et donc
elle est à l'étage des matières premières, elle est dans le trading des matières premières, et il y a le responsable du trading qui s'appelle Gary Cohn, et qui est aujourd'hui le conseiller économique du président Trump, donc qui est aujourd'hui à la Maison Blanche. Et lui, quand il a vu le premier avion s'écraser contre la tour, il a ordonné à ses traders de jouer sur le pétrole. Il s'est dit, avion, tour, crash, on ne sait pas si c'est un attentat ou un accident, il y a de fric à se faire. Et ils ont continué à jouer, jusqu'à ce qu'on sache, après le deuxième impact, qu'effectivement il s'agissait d'attentats. C'est un peu pour illustrer la mentalité.
Tout est bon
pour faire un coup, pour gagner de l'argent.
Y compris les événements les plus dramatiques.
Mais on ne parle pas de morale ou d'éthique.
C'est clair.
On est ici pour gagner de l'argent, et pour gagner le plus d'argent, et comme le disait un des concurrents, pas seulement gagner de l'argent, mais écraser l'adversaire.
Parce qu'on disait effectivement des gens qui travaillent 15 heures par jour et ils touchent de l'argent. Alors on se dit, oui, c'est normal qu'ils touchent de l'argent s'ils travaillent beaucoup. Sauf que là, on est dans des sommes folles, quoi. Et pas seulement le PDG de la banque, hein, les traders peuvent toucher des sommes complètement dingues, surréalistes.
Mais vous êtes multimillionnaire. Les bonus sont incroyables. Vous faites partie des gens qui gagnent le plus d'argent au monde.
Ouais.
Voilà. Et on vous le fait sentir. Tout est fait pour vous mettre dans les meilleures conditions pour travailler. Mais vous ne devez faire que ça. Et vous jurez fidélité à la banque. Et vous jurez également le secret. Et même quand vous sortez, vous signez un accord de confidentialité, vous n'avez le droit de parler de rien du tout. D'ailleurs, quand vous regardez le jeune français Fabrice Tour.
On allait en parler justement de Fabrice Tour.
Qui a été jeté en pâture par Goldman Sachs, par sa propre direction. Parce que les mails absolument incroyables qu'il écrit à sa petite amie, où il s'appelle lui-même Fable Fabuleux, ces mails étaient des mails qu'il avait écrits en français à sa petite amie. La direction de Goldman Sachs a pris soin de les faire traduire avant de les livrer aux médias. Et ceci quelques jours avant les auditions publiques devant devant le Sénat américain. Ce qui fait que tous les médias américains avaient les paroles, les propos écrits par Fabrice Tour à sa petite amie, dans lequel il se vantait, évidemment, il avait une certaine arrogance. Donc tout ça, c'était fait pour l'enfoncer. Or, ce Fabrice Tour était défendu par des avocats qui eux-mêmes étaient payés par Goldman Sachs.
Le conflit d'intérêts.
Donc il s'est retrouvé jeté en pâture, sans pouvoir vraiment se défendre, parce que ses avocats dictaient sa défense, à savoir tu dis rien. Voilà. Et donc à l'arrivée, il a été la seule personne condamnée. Bon, la banque a eu une amende dérisoire, vous l'avez dit. Il a été le seul individu condamné. Ses supérieurs n'ont jamais été condamnés.
Ah, c'est le fusible habituel, quoi.
Dans ce genre de choses. Parfait. Ouais, il était jeune, arrogant et en plus français. Donc c'était parfait. Voilà. Donc il a eu 875 000 dollars d'amende. La juge s'est permis de préciser interdiction à Goldman Sachs de payer votre amende. Et donc il a dû payer lui-même. Depuis, il a quitté les marchés. Il est professeur d'économie aux États-Unis.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Jérôme Kerviel à la Société Générale ou au contraire, Tour et Kerviel, ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose.
On est aux deux opposés. Tour, c'est le pur produit de l'establishment financier. C'est le premier élève de la classe, c'est le meilleur des meilleurs. Il sort de l'école centrale, il a 22 ans, il est recruté par Goldman Sachs, il rentre dans le sein des saints. Kerviel, c'est au contraire quelqu'un qui fait tout pour être admis chez les autres traders et qui, à la fin, fait ses coups dans le dos de la direction. Alors, quand ça marche, tout le monde lui tape dans le dos, puis quand ça marche plus, il est viré, avec 5 milliards de positions à découvert, quand même. Alors qu'au contraire, Fabrice Tour, il travaille conformément à ce que lui demande sa hiérarchie, donc c'est le meilleur élève de la classe.
Ouais.
Donc voilà, on a affaire à deux profils totalement différents.
D'accord. Donc en tout cas, ça le protège, Tour, d'une certaine façon, d'être le meilleur élève de la classe.
Oui, oui, oui. Si vous voulez, il n'y a pas tellement d'initiatives individuelles dans tout ça.
Alors, il conçoit donc ce fameux abacus. Alors ça, c'est une bombe à retardement. Est-ce que vous avez eu des difficultés, vous, pour nager dans cette finance avec ces codes compliqués? Moi, ça fait depuis 2008 qu'on essaie de m'expliquer ça. Du mal à rentrer. C'est très, très, très compliqué, la titrisation, les titres pourris. Faut s'accrocher pour comprendre quand même, hein, comment ça fonctionne.
Mais en fait, tout est fait pour que vous ne compreniez rien.
Ah, ça me rassure.
Donc c'est une manière de se défendre. Et ce qui permet aux financiers de dire aux politiques ou aux gens qui sont extérieurs, vous n'y connaissez rien, laissez-nous régler les problèmes, nous on connaît. En fait, sur les grandes lignes de force, c'est assez simple. Hein. Vous faites un millefeuille de crédit pourri que vous assemblez Et puis après, vous allez le vendre à vos clients qui ont confiance en vous. Parce que moi, j'ai rencontré des clients de Goldman Sachs qui avaient acheté Abacus. Alors, il y avait une banque régionale allemande de Düsseldorf. Alors, une banque pépère qui finançait les PME allemandes. Et puis, qui, à un moment, dans ces années-là, a voulu jouer dans la cour des grands et aller à Wall Street. Alors, là, maintenant, vous mettez du point de vue de Goldman Sachs. Vous voyez arriver le banquier allemand de Düsseldorf à Wall Street. Et toutes les lumières s'allument. C'est le pigeon parfait.
Le pigeon parfait.
Le pigeon parfait. Et effectivement, c'était ça. D'ailleurs, dans ses mails, Fabrice Tour dit « J'ai encore vendu des Abacus à ces Belges. » C'était le surnom qu'il avait donné à ces banquiers allemands. Mmh. Et alors, ils ont voulu jouer dans la cour des grands. Ils comprenaient absolument pas ce qu'ils achetaient. De toute façon, c'était très compliqué de comprendre comment étaient constitués ces produits Abacus.
C'est ça le compliqué.
Calculés avec des algorithmes mathématiques extrêmement sophistiqués. En tout cas, ils avaient été spécialement assemblés pour se casser la gueule. Parce que c'était un des principaux clients de Goldman Sachs qui avait demandé ça. Le client et Goldman Sachs avaient senti que le marché de ces crédits immobiliers américains était en train de se retourner. Et donc, ils avaient décidé de quitter la piste de danse. Mais quand on quitte la piste de danse, on ne se contente pas de la quitter. On veut aussi faire fortune en partant les premiers. Donc, ce client, qui s'appelait Paulson, d'ailleurs, rien à voir avec l'ancien PDG,
le secrétaire au trésor,
voilà, avait demandé à Goldman Sachs de le fabriquer sur mesure, ce titre-là, Abacus. Et Goldman Sachs avait trouvé que c'était une très bonne idée et s'était dit, je vais en profiter aussi pour jouer pour mon propre compte. Donc voilà, ils l'ont assemblé pour leurs clients, ils l'ont vendu à leurs pigeons et en plus, ils ont joué pour leur propre compte. Donc voilà, c'est un casino, vous gagnez à chaque fois. Vous gagnez en prenant des commissions quand vous fabriquez ces produits financiers sophistiqués, une deuxième fois quand vous les vendez aux clients, et une troisième fois en jouant pour votre propre compte.
Et donc ces gens n'ont pas mauvaise conscience parce qu'ils se disent que ce n'est pas illégal. C'est une pratique professionnelle.
Alors il existe deux choses. Il existe la ligne jaune de l'éthique et la ligne rouge de la loi. Alors, la ligne jaune de l'éthique, elle est franchie allègrement, un peu comme si elle avait jamais existé. La ligne rouge de la loi, ils font très attention à ne pas la franchir. Alors, ils flirtent avec, quelquefois ils vont un peu de l'autre côté.
Sur le délit d'initié, par exemple.
Oui, sur les délits d'initié. Mais là où Goldman Sachs utilise son influence, c'est notamment en finançant toute la classe politique américaine. Il faut savoir, vous avez évoqué le gouvernement Obama, Goldman Sachs est un des principaux donateurs lors de la campagne d'Obama. Ils donnent des deux côtés, mais ils avaient plus donné côté démocrate. Et surtout, ils financent les campagnes des congressmen, les députés ou les sénateurs américains, ce qui leur permet, en fait, d'influencer la loi, et donc de déplacer la ligne rouge de la loi. Comme ça, on n'a plus besoin de la franchir, on oui, l'a déplacée.
Alors, évidemment, après la crise des subprimes en 2007 et la crise financière en 2008, on a entendu beaucoup de voix s'élever de la part des responsables politiques, en Europe notamment, et en France. Michel Sapin, à l'époque de la crise de 2008, il était député socialiste, et il demandait, comme beaucoup d'autres, que la finance mondiale soit encadrée. On l'écoute.
Vous pensez, Michel Sapin, qu'il y a quelques financiers cyniques qui jouent aussi les marchés à la baisse ?
Ben, la spéculation est là comme caractéristique d'avoir d'abord aucune morale, de ne pas chercher forcément à arranger les choses, et on peut gagner autant d'argent en spéculant à la baisse qu'en spéculant à la hausse. Là aussi, dans ce domaine-là, il y aurait besoin de transparence, de règles et de sanctions.
Voilà, ce que vous en pensez, c'est une analyse lucide. Quoi.
Enfin, ah, bien sûr, quand vous jouez à la hausse choses, ou à la baisse, vous pouvez gagner dans les deux cas.
Alors, durant votre enquête, parmi tous les responsables d'institutions économiques internationales, seul Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, a accepté de vous répondre. Alors, on va écouter une deuxième archive. Là, il revient sur la réaction de l'opinion face à la crise de 2008. Et juste après, alors, votre confrère Marc Roche, qui a fait le documentaire avec vous, l'interpelle sur le cas de Mario Draghi.
Je vous mets en garde. Rechercher un bouc émissaire conduit à disculper tout le reste du système, mais dans l'ensemble des pays avancés, je note un malaise, un vrai malaise. Alors, un malaise qui est complexe. Je crois qu'il est très difficile pour nos opinions d'admettre que le système financier pouvait être aussi fragile. Alors, en sus de cela, il y a le paradoxe que ce système fragile était en même temps un système dans lequel les gens se rémunéraient beaucoup. Et là, certaines valeurs qui se développent au sein d'un certain nombre d'industries et de l'industrie financière ne sont pas acceptables par les gens. le peuple souverain.
Au sujet de Mario Draghi, ses critiques montrent du doigt son passage chez Goldman Sachs en disant il y a là des questions qui se posent, des questions éthiques qui se posent.
Stop, je réfléchis. Je ne m'attendais pas à cette question.
Non, prenez tout votre temps. Que,
oui, mais moi, je ne veux pas répondre. Donc, vous ne me posez pas la question. D'accord. On est bien d'accord. Hein, oui. Vous ne me posez pas la question.
Aïe, aïe, aïe. Mario Draghi, donc, ancien de Goldman Sachs, est désormais tout puissant président de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est un conflit d'intérêts flagrant et dont, manifestement, on ne veut pas parler. On accepte cet état de fait, quand même. C'est étrange.
Oui, la réaction de Jean-Claude Trichet était très étrange. Et alors, en plus, je vais vous préciser les conditions de cette interview.
C'est oui.
La demande d'interview a été faite par mail, c'est moi qui l'ai faite. Et donc, elle a été faite par mail dans le cadre d'un documentaire sur Goldman Sachs. Mmh. On est venu, on avait fait un repérage, on est venu une deuxième fois, il y a eu un nombre d'échanges de mails, il y a eu plusieurs échanges de mails. À chaque fois, c'est précisé qu'on va parler de Goldman Sachs. Et quand Jean-Claude Trichet arrive au début de l'interview... Il nous salue, très sympathique, et il nous dit « je ne dirai pas un mot sur Goldman Sachs ». Voilà, ça fait 3 heures qu'on a installé le matériel, on commence l'interview, il commence à nous faire un cours d'économie, brillant, mais un peu endormant, il faut dire. Et nous, on fait quand même notre métier de journaliste, on lui pose 2 questions sur Draghi. Et voilà sa réaction, de dire « couper la caméra ». Et en fait, c'est assez étonnant de voir cette réaction-là de la part de quelqu'un qui maîtrise parfaitement le fonctionnement des médias. Ce qui s'est passé, on l'a appris après, c'est qu'en fait, au moment de la nomination de Draghi à la Banque Centrale Européenne, personne ne s'est posé la question de savoir si son passage chez Goldman Sachs pouvait éventuellement poser un problème.
Alors on pourrait dire, mais pourquoi personne ne s'est posé la question ? Parce que le fait de ne pas se poser la question, bon, c'est déjà étonnant, mais pourquoi ne pas se poser la question ?
Parce que tous ces gens font partie de la même caste. Ils font des allers-retours entre le privé et le public. Draghi, avant d'être chez Goldman Sachs, a dirigé le Trésor italien. Jean-Claude Trichet fait partie du même cursus. Voilà, donc pour eux, de passer du public au privé et revenir dans le public, c'est normal. C'est comme ça que vous faites votre carrière. Il faut voir en plus que c'est pas le premier haut fonctionnaire italien à avoir travaillé chez Goldman Sachs. Je sais que Monti aussi avait
Mario travaillé. Monti,
Mario Monti,
qui était président du Conseil des ministres italien.
Et Romano Prodi, qui a été président de la Commission européenne.
C'est vrai. Et donc, qui était aussi président du Conseil des ministres italien.
Voilà. Et donc
diriger ce pays.
Donc quelque part, quand vous êtes haut fonctionnaire dans la sphère économique italien, un passage chez Goldman Sachs, c'est un accélérateur de carrière, et en tout cas c'est un accélérateur de fortune, ça c'est sûr.
Et en France ?
Et en France, il y a des allers-retours entre le privé et le public, ce qu'on appelle le revolving door, ça se fait, c'est le pantouflage, voilà, c'est traduit par le pantouflage. Alors, Goldman Sachs en France est un peu moins puissant, voilà, c'est surtout la sphère anglo-saxonne, mais c'est vrai qu'ils ont un réseau d'influence formidable, parce que tout le monde est venu à un moment donné ou l'autre de sa carrière, tout le monde a voulu travailler chez eux, et donc tout le monde est... Forcément, si aujourd'hui le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, toujours le même, a besoin d'appeler Mario Draghi, je pense qu'il n'aura pas de problème à le joindre au téléphone.
J'imagine aussi. Dans votre documentaire, vous vous intéressez à la façon dont Goldman s'intéresse à l'Europe et aurait aggravé le déficit de la Grèce. Comment ont-ils procédé ?
Alors ils ont fait ce qu'on appelle, alors dans leur jargon technique, un swap de devises. Alors ça fait très peur, en fait c'est tout simple. La Grèce à l'époque a un déficit budgétaire un peu important et a peur de la réaction de ses voisins européens. Elle cherche à intégrer l'Europe, voilà. Donc elle veut réduire un petit peu sa dette. Alors Goldman Sachs va les voir en disant, mais voilà, on va faire un marché. Alors ça se passe comme dans un bureau de change. Normalement le change, admettons que ce soit 1 euro pour 1 dollar. Mmh. Eh bien Goldman Sachs dit à la Grèce, mais nous on va vous donner 2 dollars pour 1 euro. Mais en échange, elle nous signe un petit bout de papier sous la table, comme quoi on fait un emprunt secret. Et du coup, avec cet accord, ce swap de devises, ils ont réussi à baisser officiellement la dette grecque de plusieurs milliards. Et
donc artificiellement, finalement.
Artificiellement. Mmh. Alors, les Européens n'ont pas été très regardants. Hein. Il faut dire, c'était pas très compliqué de voir. Et alors, Goldman Sachs a gagné beaucoup d'argent dans cette histoire parce que ils n'ont pas gardé le petit bout de papier signé sous la table. Ils l'ont pas gardé. Goldman Sachs, ils gardent pas. Hein. C'est pas une banque qui thésaurise. Ils l'ont revendu tout de suite. Donc comme ça, si la Grèce payait pas, ils en foutaient. Ils avaient déjà encaissé leur commission. Ils ont gagné plus de 600 millions de dollars sur ce coup-là. ouais. 600 millions de dollars, en réduisant la dette grecque de 2 milliards.
Et qu'est-ce que les Grecs ont gagné là-dedans?
Eh ben, côté grec, eux, ils n'ont pas gagné grand-chose, parce que c'était basé sur des taux d'intérêt qui étaient variables, les taux d'intérêt se sont envolés, la dette s'est envolée, ils ont dû repousser le remboursement, je crois que ça devait être jusqu'en 2037. Ouais. Voilà. Alors, quand vous allez en Grèce, les péages d'autoroute, les taxes d'aéroport, ben, ça sert à rembourser ce type d'emprunt.
Bien, bah écoutez, devant le cynisme de ce monde, on va aller faire pousser des chèvres. Hein. C'est quand même assez effrayant. Merci en tout cas. Merci infiniment pour tous vos éclairages, votre précision de votre témoignage, Jérôme Fritel. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le scandale Goldman Sachs, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'histoire des 35 heures.